Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 3 décembre, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi matin avec 7 jours d'actualité et bien sûr les reportages de la rédaction. Nous ferons escale à Cuba et en Ukraine notamment et nous reviendrons bien sûr sur la décision du président français François Hollande de ne pas se représenter l'année prochaine pour un second mandat. Écoutons-le jeudi soir.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
Une semaine d'actualité, merci de votre fidélité, à écouter aussi, vous le savez, à podcaster sur le site de la radio rfi.fr. Deux invités cette semaine, Marjolaine Grappe, journaliste, co-auteur d'un documentaire formidable, documentaire télé sur la démographie en Chine et sur les méthodes pour le moins musclées du contrôle des naissances dans ce pays. Bonjour Marjolaine.
Bonjour.
Nous allons vous entendre dans un instant. Isabelle Defourny, la directrice des opérations de Médecins Sans Frontières. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Avec vous, nous parlerons tout à l'heure de l'action de Médecins Sans Frontières en Afrique, au Nigeria notamment, et après le flash, mais aussi de la Syrie et la situation en Irak également. Marjolaine Grappe, on va commencer avec vous dans cette première partie d'une semaine d'actualité. Vous venez de faire un reportage qui s'intitule « Chine, le cri interdit », reportage qui a été diffusé sur la chaîne Planète il y a quelques semaines.
Planète plus Crime Investigation.
La précision est importante et qui sera rediffusée au mois de février, on peut déjà le dire.
Tout à fait, le 20 février à 22h.
Un documentaire très humain sur une question sensible en Chine, le contrôle des naissances.
Oui, tout à fait. Alors l'idée de ce documentaire, c'était d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entendait derrière cette politique de l'enfant unique dont on a tous entendu parler, mais que pour autant, du moins moi, la première, quand je suis arrivée en Chine et que je me suis installée, que j'ai commencé à vivre et à travailler là-bas, ce n'était que des mots. Et j'ai eu envie de creuser, d'enquêter, et c'est ce qu'on a fait pendant 3 ans, pour tenter de comprendre comment le planning familial chinois mettait en œuvre cette politique de l'enfant unique, comment est-ce qu'il faisait pour que les parents n'aient qu'un seul enfant.
Alors il faut rappeler, Marjolaine, que la loi a un peu changé depuis le reportage, puisque maintenant un deuxième enfant est autorisé depuis quelques mois.
Tout à fait. Alors c'est un film qu'on a commencé à tourner. Les premières images, on les a tournées en octobre 2014. Donc au fur et à mesure, on a suivi effectivement les changements qui ont opéré dans le pays. Il faut savoir que depuis, les assouplissements ont été progressifs. À partir de 2013, les enfants qui étaient eux-mêmes enfants uniques ont eu le droit d'avoir dans un premier temps un deuxième enfant. Et puis effectivement, coup de théâtre, le 29 octobre 2015, le Parti communiste chinois a autorisé tous les couples à avoir 2 enfants à partir du 1er janvier 2016. Et donc c'est un peu un filigrane dans l'histoire, puisque l'histoire va se produire au fur et à mesure du film et permettre à certaines mamans d'avoir un deuxième bébé.
Alors, il faut rappeler, Marjolaine, quelle est la population de la Chine aujourd'hui? Un peu plus d'un milliard?
Alors, aujourd'hui, il serait 1,375 milliards, approximativement.
Donc, une population menacée de vieillissement?
Oui, alors voilà. C'est ce qu'on a raconté à travers ce documentaire, c'est que aujourd'hui, donc, la Chine a mis en place en 1979 cette politique de l'enfant unique parce qu'elle avait trop de bébés et qu'elle était dépassée par les événements. À l'époque, même la communauté internationale tirait la sonnette d'alarme. Par contre, aujourd'hui, la donne démographique a changé. Et aujourd'hui, la Chine est menacée par un vieillissement de la population. En 40 ans, pour vous donner une idée, en 40 ans, l'indice de fécondité est passé de 4,7 enfants par femme à approximativement 1,4 enfants par femme. Donc aujourd'hui, le renouvellement des générations n'est plus assuré. Et la Chine vieillit trop vite. Elle manque de main-d'œuvre dans ses usines. Et puis surtout, il va se poser la question des retraites. Quand toute cette génération, ce baby-boom va arriver en âge d'être à la retraite, qui s'occupera d'eux? Et on va se retrouver dans un schéma qu'en Chine, on appelle le schéma du 4-2-2, c'est-à-dire que 2 enfants uniques doivent s'occuper de 4 parents qui sont eux-mêmes à la retraite et d'un enfant, voire de 2 enfants maintenant que la politique a été assouplie.
7 jours dans le monde.
Et partons maintenant, Marjolaine, Isabelle, à Cuba, une semaine après la mort de Fidel Castro. La semaine a été émaillée de commémorations, d'hommages au leader Massimo. Et jeudi, ses cendres ont été transportées de l'ouest à l'est de l'île avant les obsèques demain. Reportage de notre envoyé spécial Véronique Guémard et de notre envoyé spécial aussi Manu Pochez.
Le trafic est bloqué à Ciego de Ávila, 80 km de Camagüey. Les militaires et les policiers déployés sur la route du cortège font barrage, impossible de passer. Jorge prend son mal en patience, il fait la liaison de La Havane à Holguín, normalement en 12 heures, dans son taxi collectif, une vieille Plymouth de 1958.
On attend qu'on nous donne l'autorisation pour continuer, car on est derrière le cortège qui transporte les restes du commandante Fidel Castro. Il les emmène à Santiago de Cuba.
Tout autour de Ciego de Ávila, des plantations d'ananas, de canne à sucre, de haricots. Pablo Suárez est gardien dans la coopérative de fumigation de l'État. Il est fier d'avoir vu passer le cortège juste devant sa porte.
Vous imaginez, la première chose que Fidel a faite quand la révolution a triomphé a été de faire le trajet de la province de l'Orient jusqu'à l'Occident. Quel meilleur adieu que de voir passer en sens inverse jusqu'à l'endroit où la révolution a commencé. Il n'y a pas de meilleur hommage que nous, le peuple, on le salue ici sur cette route.
Le cortège est arrivé vers 19h à Camagüey. Avec une veillée sur la place de la Révolution, Ignacio Agramonte, il prend la route ce vendredi pour Santiago de Cuba, où les cendres de Fidel Castro seront inhumées aux côtés du père de l'indépendance, José Martí, ce dimanche.
Non loin de là, à Cuba, à Haïti, les résultats de l'élection présidentielle ont été proclamés lundi soir. Vainqueur Jovenel Moïse, correspondance d'Amélie Baron.
Avec près de 400 000 voix d'avance sur Jude Célestin, la victoire de Jovenel Moïse est plus large que lors du premier tour de scrutin organisé l'an dernier, mais annulé par la suite en raison de fraude massive. Quelques minutes après l'annonce de ces résultats préliminaires, le candidat du PHTK a appelé à l'Union nationale pour relever le pays.
Je lance un appel à la jeunesse du pays, à tous les Haïtiens qui habitent à l'étranger et à tous les professionnels, afin qu'ils s'engagent à mes côtés pour mettre le pays debout, car Haïti est à genoux. Nous aurons besoin de mobiliser toutes les ressources du pays, comme je l'ai répété durant ma campagne. Les hommes, la terre, le soleil et les rivières, afin que le peuple ait à manger et afin qu'il ait de l'argent dans sa poche.
Jovenel Moïse a brièvement salué les autres candidats qui participaient à cette élection et les appelle aujourd'hui à travailler avec lui. Mais il est certain que cette large victoire annoncée va être, comme l'an dernier, contestée par ses opposants.
Et en effet, les principaux opposants à Jovenel Moïse contestent les résultats. Ils ont d'ailleurs provoqué des manifestations violentes dans la capitale mardi. La situation est évidemment à suivre dans nos journaux. Nous continuons ce numéro d'une semaine d'actualité en compagnie de Marjolaine Grappe et d'Isabelle de Fourny, qu'on entendra d'ailleurs tout à l'heure à propos de l'Irak et de la situation à Alep. Retour en Chine, donc, avec votre film « Chine, le cri interdit ». On y voit dans ce film des portraits absolument saisissants de femmes meurtries par cette histoire de contrôle du planning familial qui mène des opérations commando, ou en tout cas menées à l'époque où vous avez fait ce reportage, époque très récente.
Oui, et alors voilà.
En toute probabilité, ça doit continuer aujourd'hui.
Ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu mettre des images et des témoignages derrière ce qui, en général, est un mot, la politique de l'enfant unique ou le contrôle des naissances. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire en Chine parce que c'est un sujet qui est sensible et que tout sujet sensible, il est de façon un peu tacite interdit d'enquêter sur la question. Les gens eux-mêmes ont très peur de témoigner. Les journalistes chinois n'obtiennent jamais l'aval de leur direction pour aller sur le terrain, aller poser des questions, aller rencontrer des témoins. Et donc, en général, on en parle dans la presse. On parle de ces avortements forcés, de ces stérilisations forcées. Mais on a très rarement les témoignages et des images de ce qui se passe, de comment ça se passe techniquement. Donc, ça a été le challenge qu'on s'est donné. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve des moyens pour aller à la rencontre de gens qui le vivent au quotidien aujourd'hui, en 2014, 2015, 2016.
D'ailleurs, on sent particulièrement le malaise dans le film. Quand vous visitez, vous entrez dans un hôpital où on vous jette. Enfin, vous commencez à filmer et on s'aperçoit que vous filmez... Vraiment, vous essayez de savoir ce qu'il en est, on vous jette de l'hôpital.
Tout à fait, et ça a été simplement en posant une question, en leur demandant s'ils appliquaient la politique du contrôle des naissances, et en prononçant cette phrase, ils ont entendu le mot politique, et là, tout d'un coup, toute la machine du service de presse de l'hôpital, etc., a commencé à avoir peur. Et ça montre aussi que quand parfois la parole se libère en Chine, très vite, il y a un contrôle, on est en train de parler avec une médecin, on fait une interview, et en fait, c'est sa collègue qui surprend un mot, qui surprend le mot politique, et qui tout d'un coup va aller interrompre l'interview, va aller inquiéter tout le monde. Et à partir de ce moment-là, mouvement de masse et tout le monde se referme dans sa coquille.
Donc c'est aussi cela, la Chine d'aujourd'hui. On a tendance à l'oublier aujourd'hui. Donc, alors, ce qui est frappant aussi dans votre film, Marjolaine Grappe, c'est le conditionnement de la population. Parce qu'on vous filmait à un moment des inscriptions, des affiches sur les murs, de vieilles affiches, de vieilles inscriptions. Ça fait vraiment partie de la Chine communiste.
Tout à fait.
C'est ce contrôle des naissances.
Ce contrôle des naissances, et c'est ce qu'on disait, il est marqué sur les murs et dans les esprits. C'est devenu une obligation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez fou, c'est qu'il faut retourner le problème dans un autre sens. En Chine, on avorte par devoir. On n'est pas en train de se poser la question de si on a le droit d'avorter ou pas le droit d'avorter. On avorte par devoir. C'est un devoir d'État. C'est du patriotisme. Et puis c'est même tout simplement obligatoire. Sinon, le planning familial peut intervenir et puis vous forcer à avorter. En Chine, on peut être licencié de son travail parce qu'on a eu un enfant qu'on n'avait pas le droit d'avoir. En Chine, on peut être pourchassé, on peut être tabassé parce qu'on a eu un enfant qu'on n'avait pas le droit d'avoir. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a eu donc un assouplissement. Deux enfants autorisés pour tout le monde. Par contre, il est toujours interdit d'en avoir un troisième ou un quatrième, alors qu'il y a des couples qui en veulent parce que dans les campagnes notamment, les couples veulent souvent avoir à tout prix un garçon. Et donc du coup, si ils ont eu deux filles, ils vont tenter d'en avoir un troisième pour avoir un garçon. Et puis d'autre part, autre chose qu'on c'est peu, c'est qu'en Chine, il est interdit d'avoir un enfant quand on n'est pas marié et qu'il est interdit d'avoir un enfant avant 20 ans. Et donc, tout cela sont des cas où les femmes se retrouvent obligées à avorter et les chiffres officiels, d'ailleurs, disent qu'en Chine, il y a 8 à 10 millions d'avortements par an, ce qui veut dire approximativement 30 000 avortements par jour.
Une semaine d'actualité.
Et partons pour New York maintenant, où au Conseil de sécurité de l'ONU, les réunions sur la Syrie se ressemblent. On en parlait déjà samedi dernier. Nul État, c'est une évidence aujourd'hui, ne viendra en aide aux habitants d'Alep Est. Marie Bourreau, mercredi.
Lancé depuis Londres où il se trouvait, l'appel de Stephen O'Brien, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, sonne comme une ultime supplique.
Pour le bien de l'humanité, nous appelons, nous supplions même les parties au conflit et ceux qui ont de l'influence de faire tout leur possible pour protéger les civils et pour permettre l'accès à la partie assiégée d'Alep Est avant qu'elle ne devienne un gigantesque cimetière.
Le décompte des morts est difficile, plusieurs dizaines, peut-être plus, certains touchés alors qu'ils fuyaient leurs valises à la main. Mais les diplomates, à l'image de François Delattre, le représentant français, n'ont pu que souligner leur impuissance.
Aujourd'hui, nous constatons que le Conseil n'a une nouvelle fois pas été en mesure de trouver un accord pour sauver la population d'Alep Est. Toutes les initiatives de ce Conseil se sont heurtées à la même fin de non-recevoir de la Russie.
Vitali Tchourkine, le représentant de Moscou, s'est une nouvelle fois emporté contre une réunion qu'il a qualifiée de propagande, promettant de s'opposer à tout nouveau projet de résolution sur la Syrie.
Elle est supposée protéger la centrale de Tchernobyl en Ukraine pour longtemps. Une arche protège désormais le réacteur qui a explosé, vous le savez, il y a 30 ans. Ukraine qui a lancé par ailleurs des essais de missiles à proximité de la Crimée. La Russie a envoyé des navires de guerre au large de la péninsule. Suite d'une semaine d'actualité, avant de retrouver Marjolaine Grappe et de reparler de la naissance en Chine, je me tourne tout de suite vers vous, Isabelle de Fourny, directrice des projets des missions de Médecins Sans Frontières, car il nous faut nous arrêter à Alep. Chaque semaine, nous faisons la constatation de l'impuissance de ce que l'on appelle la communauté internationale. Mais vous essayez quand même, dans la mesure du possible, de soulager la population.
On essaye, mais on est depuis quelques mois aussi très impuissant pour Alep. Hein. Jusqu'au mois d'août, on a réussi à soutenir des hôpitaux à Alep Est et surtout à leur envoyer du matériel médical. Et depuis août, plus rien. Donc là, aujourd'hui, c'est une situation plus...
Il y a eu des enlèvements de membres de Médecins Sans Frontières.
En 2014, début 2014, où de fait, 5 personnes de Médecins Sans Frontières ont été enlevées et libérées après quelques mois. Et depuis ce moment, on n'a plus aucune équipe expatriée en Syrie. Donc on a uniquement travaillé avec soit du personnel de Médecins Sans Frontières syriens, qui acceptait donc de travailler dans ces zones. Bon, les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Ou alors, ce qu'on a fait aussi beaucoup et ce qu'on fait toujours, c'est de travailler avec des directeurs d'hôpitaux, avec des hôpitaux en Syrie, et d'essayer de leur apporter ce dont ils ont besoin au mieux, donc à partir de la, principalement à partir de la Turquie, mais aussi à partir de la Jordanie. On a des convois de médicaments, on est en contact avec eux par Skype, on essaie de répondre à leurs demandes, mais ça reste très peu hein, par rapport aux besoins réels en fait.
Alors ça c'est Alep, Isabelle de Fourny, vous essayez aussi d'agir à Mossoul, enfin dans la région de Mossoul.
Oui.
En Irak.
On travaille aussi en Irak, dans plusieurs régions d'Irak. Et de fait, autour de Mossoul, plusieurs équipes de Médecins Sans Frontières sont mobilisées. Donc ce qu'on fait, c'est que on essaie de prendre en charge au mieux les populations déplacées, donc certaines sortent de Mossoul. Et puis, on met en place des hôpitaux avec des capacités chirurgicales sur les routes à la sortie de Mossoul pour essayer de prendre en charge au plus vite les blessés, notamment les blessés.
Isabelle, on va vous retrouver tout à l'heure dans la partie Afrique, après le flash, pour parler de vos actions en Afrique, au Nigeria notamment. Je voudrais qu'on termine ce premier volet avec vous, Marjolaine Grappe, et reparler de la Chine. Vous faites dans votre reportage, le cri interdit, le portrait de femmes dévastées par cette, même physiquement, par cette question du contrôle des naissances. Et vous faites aussi le portrait d'une femme qui a été obligée de divorcer pour essayer d'avoir un deuxième enfant à l'époque, et qui divorce et qui quitte son mari et qui va s'installer à 30-40 km de sa ville.
Tout à fait, en attendant que le bébé naisse pour le protéger. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans les campagnes chinoises, le planning familial a encore aujourd'hui un contrôle tous les 3 mois. Et donc, c'est assez fou. Toutes les femmes du village sont convoquées dans ce petit hôpital de campagne où ils arrivent avec une mallette, avec de quoi faire une échographie pour vérifier si chacune des femmes du village ne sont pas enceintes et sinon, elles sont obligées d'avorter. Et donc, cette maman qu'on suit, quand elle se rend compte qu'elle est enceinte, décide de s'enfuir, en fait. Donc, elle ne va pas à ce fameux contrôle, mais à partir du moment où elle ne va pas au contrôle, elle devient suspecte aux yeux des autorités. Mmh. Et donc, du coup, elle va devoir s'enfuir en simulant donc à une sorte de divorce avec son mari pour expliquer son absence soudaine et se cacher jusqu'à ce que le bébé naisse pour réussir à le sauver, en fait, parce qu'avec son mari, ils veulent absolument un deuxième enfant.
Mais on se demande ce que sont devenus ces enfants, des enfants clandestins, en quelque sorte.
Alors tout à fait, donc cette politique de l'enfant unique a duré 36 ans. Et pendant 36 ans, effectivement, il y a des enfants qui sont nés et qui n'avaient pas le droit de naître. Alors deux schémas s'offraient à eux. Soit leurs parents avaient la possibilité de payer une amende à l'État. Une amende qui peut être considérable, elle peut aller jusqu'à 40 000 euros.
Donc ça, cela concerne la population la plus riche.
Voilà, exactement. Les riches peuvent le payer. Par contre, il y a énormément de parents qui n'ont pas les moyens de payer ces amendes. À la campagne, en général, c'est de l'ordre de 1 500-3 000 euros, mais ça reste des sommes considérables pour des paysans. Et donc, il y a énormément d'enfants qui n'ont pas pu être régularisés, entre guillemets, et qui, donc, du coup, sont devenus des enfants fantômes. En Chine, ils ont un nom, c'est les enfants noirs, c'est les Rare Eyes. Et donc, c'est des enfants qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, pas le droit d'aller à l'hôpital, pas le droit de prendre même le train, parce qu'en Chine, il faut une carte d'identité pour pouvoir prendre le train, et ces enfants n'ont pas le droit d'avoir une carte d'identité. C'était d'ailleurs l'objet d'un précédent film qu'on avait fait, où on avait raconté l'histoire de ces enfants,
ouais.
Et qui s'appelle Naître et ne pas être, qu'on avait fait pour Arte.
Et, voilà. Vous faites aussi le portrait d'un couple qui essaie de porter cette question en justice sur les méthodes du planning familial. Et là, c'est vraiment David contre Goliath. Hein.
Alors, c'est fou et en même temps, c'est pas extrêmement étonnant en Chine, mais jamais personne n'avait tenté d'attaquer le planning familial pour les actions commises et notamment pour les stérilisations forcées. Et donc, effectivement, ce couple à la campagne décide un jour de porter plainte, d'être les premiers en Chine à porter plainte contre le planning familial. Ils sont épaulés dans ça par une avocate chinoise qui est impressionnante de courage. Et ils vont tenter petit à petit d'aller devant les différents tribunaux chinois pour tenter d'obtenir un procès.
Et on ne dit pas comment ça se termine, il faut regarder le film. Donc vous nous donnez rendez-vous parce qu'il y a une autre rediffusion. Redites-nous, c'est au mois de février.
Il sera rediffusé donc sur Planète Plus Crime Investigation le 20 février à 22h.
Et donc aussi visible, entre guillemets, à Vesoul.
Tout à fait, au Festival International des Cinémas d'Asie au mois de février.
Le cri interdit, je le recommande vivement. Merci, Marjolaine Grappe.
Merci à vous.
C'est la fin de cette première partie d'Une semaine d'actualité. Nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde. Et on se retrouve pour la seconde partie d'Une semaine d'actualité, donc en compagnie d'Isabelle de Fourny, de Médecins Sans Frontières. A tout de suite.
Géopolitique.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour notre revue de 7 jours d'événements en Afrique. Cette fois, nous sommes en compagnie d'Isabelle Defourny, la directrice des opérations de Médecins sans frontières.
Une semaine d'actualité.
Mais avant de prendre la direction du continent africain, arrêtons-nous un instant en France, avec d'abord un retour sur la décision surprise de François Hollande de ne pas se représenter pour un second mandat. Décision annoncée jeudi soir à la télévision, Guillaume Nodin.
Ce sera donc sans lui, c'est d'une voix blanche que François Hollande a annoncé lors d'une allocution télévisée qu'il ne briguerait pas sa propre succession. C'est une première sous la Ve République, tous les présidents sortants ayant brigué un second mandat après le premier à l'exception de Georges Pompidou, mort durant son unique septennat. En fait, François Hollande a pris acte de son impopularité, elle aussi inédite. 4% d'opinion favorable et des sondages de premier tour de la présidentielle à 7%. Cela ne l'a pas empêché de défendre son bilan pendant une bonne partie de son intervention sur de nombreux sujets. Les comptes publics, la lutte contre le réchauffement climatique avec l'accord de Paris, le mariage pour tous et même la lutte contre le chômage, même s'il reconnaît des résultats tardifs. Un seul regret avoué, la déchéance de nationalité qui a divisé les Français et son camp. Son camp qui va devoir se choisir un champion. Ils sont déjà 7 à s'être lancés dans la primaire de gauche, dont 2 anciens ministres de François Hollande, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Ils devraient logiquement être rejoints par Manuel Valls. Le Premier ministre ne cache plus depuis plusieurs semaines sa volonté de défendre les couleurs de la gauche de gouvernement.
Emmanuel Valls a en quelque sorte commencé sa campagne, préparation de l'élection présidentielle de mai prochain, toujours avec le rappel de la victoire de François Fillon aux primaires de la droite et du centre dimanche dernier. Autre chose maintenant, le Rwanda a officiellement ouvert une enquête sur le rôle de 20 responsables français en 1994 lors du génocide. Kigali mardi, Stéphanie Aglietti.
Le parquet rwandais souhaite entendre 20 personnalités françaises afin, je cite, de mieux comprendre leur rôle et de décider si elles seront poursuivies ou non. Au fil des enquêtes, précise le procureur général du Rwanda, d'autres agents et ou fonctionnaires français pourraient être appelés à assister la justice rwandaise. Richard Muhumuza assure que les autorités françaises ont été formellement contactées et dit espérer leur coopération sur la base de la réciprocité. Par le passé, Kigali avait en effet autorisé des enquêtes françaises en territoire rwandais. Si le communiqué ne détaille pas le nom des personnalités visées, le 1er novembre, une commission rwandaise avait publié la liste de 22 officiers supérieurs français qu'elle accuse d'avoir été impliqués dans le génocide en tant qu'auteurs et complices. Cette liste avait été publiée en réponse à la décision de 2 juges français de relancer l'enquête sur l'attentat contre l'ex-président Juvénal Habyarimana, élément déclencheur du génocide. Et parmi les personnalités françaises accusées, on peut trouver l'ancien chef d'état-major Jacques Langsade et le général Lafourcade, commandant de l'opération turquoise.
Une semaine d'actualité donc, nous sommes en compagnie d'Isabelle Defourny, de Médecins sans frontières, responsable des projets post-stratégiques à MSF. Alors avec vous, on va faire un point, je voulais qu'on fasse un point sur l'action de MSF, les grands dossiers de MSF dans ce deuxième volet d'une semaine d'actualité en Afrique. Il faut d'abord rappeler que vous êtes très très présent sur le continent africain, MSF.
Oui, on travaille dans une vingtaine de pays en Afrique et particulièrement dans les pays où se déroulent des conflits, avec une forte présence au Soudan du Sud, en Centrafrique, au Nigeria, en République démocratique du Congo. Mais pas uniquement, on s'intéresse aussi beaucoup à la prise en charge des personnes atteintes par le VIH et à des gros problèmes de santé comme la malnutrition, le paludisme, pour lesquels on travaille généralement de façon très proche avec les autorités de la santé des différents pays concernés.
Façon de dire et de rappeler qu'à Médecins sans frontières, il n'y a pas que l'action d'urgence, il y a aussi l'action à long terme qui est moins visible mais qui est réelle.
Tout à fait. On travaille beaucoup sur... Donc ces situations d'urgence, de conflits, d'épidémies ou de catastrophes naturelles. Mais une autre partie de nos projets est consacrée finalement aussi quand même à des situations de problématiques médicales assez importantes qui entraînent des mortalités élevées directement liées à ces pathologies. Et on essaye avec les autorités de la santé de trouver des solutions adaptées en fait au pays dans lesquelles ou aux régions dans lesquelles sévissent ces pathologies.
Alors on va commencer avec une grande crise qui est peut-être une des grandes crises, enfin peut-être la crise que vous avez à gérer aujourd'hui. Je mets Alep et Mossoul, on en a parlé tout à l'heure. C'est la situation au Nigeria, dans le nord-est du Nigeria.
Tout à fait. C'est une crise dont on parle très très peu et qui pourtant est particulièrement sévère. donc dans le gouvernorat de Borno, donc au nord-est du Nigeria. C'est un gouvernorat où vivent plusieurs millions de personnes, hein, donc c'est 4-5 millions de personnes, et où depuis plusieurs années, la population est coincée finalement dans le conflit entre l'armée nigériane et Boko Haram. Et ce qu'on a vu lors de l'année 2014-2015, on a vu une offensive assez importante de l'armée pour reprendre le contrôle du territoire, qui a mené des centaines de milliers de personnes à rejoindre la capitale du gouvernorat, Maïdigouri. Ça, c'est une chose. Nous, on était dans cette capitale, aidant les autorités nigérianes à notamment fournir des soins de santé à ces populations. Et on n'avait pas du tout accès à l'extérieur de Maïdigouri en raison des combats. Et depuis cet été, on a découvert finalement des poches de population qui vivaient dans des villes tenues par l'armée. Je dis des villes, mais enfin, c'est des villes complètement détruites. Ce sont plutôt des positions militaires où étaient regroupées 5 000 personnes, 10 000 personnes, 15 000 personnes. Et l'état dans lequel on a trouvé ces personnes était catastrophique, quoi. On a parlé de poches de famine, mais c'est la définition exacte, des taux de mortalité comme on n'avait plus vu depuis très longtemps. Et puis, quasiment pas d'hommes, uniquement des femmes et des enfants, donc des tranches entières de population qui ont disparu. Et alors, pratiquement amener de l'aide à ces personnes qui sont dans des zones que l'on peut rejoindre uniquement en utilisant des escortes militaires ou des hélicoptères. C'est extrêmement compliqué. Ce n'est qu'une partie du problème, d'ailleurs, au Niger et à ces poches de population.
Parce que vous dites aussi, vous constatez, je crois, qu'il y a eu des disparitions d'enfants aussi.
Alors, on a pu faire des enquêtes de mortalité rétrospective, des enquêtes de malnutrition qui nous donnent une image de la démographie, de la pyramide des âges, sur des personnes qui venaient d'arriver à Maïdigouri, donc qui sortaient de ces campagnes et qui venaient d'arriver à Maïdigouri. Et là, on voit très peu d'enfants de moins de 5 ans. On sait que la mortalité des enfants de moins de 5 ans est très élevée, donc les seuils d'urgence, tels qu'on les calcule, c'est en général 2 décès pour 10 000 personnes par jour. Là, on a atteint des 6, 7, 8, 10 par 10 000 par jour, donc des chiffres extrêmement élevés. Donc une mortalité très forte, mais aussi peu de naissances, en fait. C'est aussi sans doute expliqué par le fait qu'il y ait peu de naissances, vu que dans ces camps, il y a très très peu d'hommes. Ils ont été soit emmenés par Boko Haram, soit arrêtés... potentiellement arrêté par l'armée nigérienne. Mais c'est pas uniquement donc les enfants de moins de 5 ans, très peu d'enfants de moins de 5 ans, mais par exemple très peu d'adolescents aussi. Donc une pyramide des âges très particulière, accentuant en fait la difficulté de ces personnes. À partir du moment où dans une famille il reste que la maman, quelques enfants, ça devient extrêmement difficile d'arriver à ce que les conditions de vie soient un peu correctes.
Et vous arrivez à travailler dans ces circonstances, dans ces
Alors
conditions?
Toujours sous
escorte armée, en fait.
Voilà, ça c'est un problème très compliqué au Nigeria, parce que finalement il y a deux situations qui rendent très complexe le fait de délivrer l'aide. Il y a cette situation liée à la sécurité, donc évidemment à partir du moment où il faut prendre des escortes armées, des hélicoptères, c'est très compliqué et très dangereux. Donc les problèmes de sécurité empêchent l'assistante, bon voilà, ça c'est un fait. Mais un autre problème, c'est que dans la capitale par exemple de Maïdigouri, où ce serait relativement faisable de délivrer toute l'assistance nécessaire, là non plus elle n'est pas mise en place, et là on tombe sur des problèmes plus compliqué. La volonté du gouvernement du Nigeria est tant mieux finalement d'adresser le problème par eux-mêmes, mais on n'a pas encore aujourd'hui un déploiement d'urgence qui correspond en fait à la sévérité. Les agences des Nations Unies comme le Programme Alimentaire Mondial par exemple ne travaillent pas encore réellement à Maïdigouri, ce qui est... Du coup, les opérations se mettent pas en place assez vite et on est encore sur des taux de mortalité, de malnutrition beaucoup, beaucoup trop élevés par rapport à ce qu'on pourrait faire.
Une semaine d'actualité.
Et nous restons sur le continent africain, Isabelle Dufourny, avec cette fois l'ouverture cette semaine du procès d'Amadou Aya Sanogo à Sikasso, dans le sud du Mali. David Bachet nous explique les raisons de cette procédure judiciaire.
Amadou Aya Sanogo entre dans la vie des Maliens le 22 mars 2012. Ce matin-là, le capitaine, âgé de 39 ans, apparaît sur les écrans télé de tout le pays, à la tête d'un groupe de militaires bérets verts. Il vient de réaliser un coup d'État, présenté comme une tentative de restaurer la démocratie au Mali. Amadou Aya Sanogo donnait jusque-là des cours d'anglais dans l'école militaire de Kati, le fief des bérets verts situé près de Bamako. Une compétence acquise aux États-Unis, où il a également suivi une formation de lutte antiterroriste chez les prestigieux Marines de Quantico. Moins d'une semaine après le coup d'État, Sanogo, président du comité militaire putschiste, s'octroie le rang de chef d'État. S'il tient rapidement sa promesse de rendre le pouvoir aux civils, le capitaine continue de suivre de près le gouvernement de transition. C'est lui qui contraindra à la démission l'éphémère Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. En juin 2013, Sanogo demande solennellement pardon au peuple malien et trois jours après le second tour de la présidentielle du mois d'août, remporté par Ibrahim Boubacar Keïta, le putschiste est promu général. Mais dès le mois de novembre, Amadou Aya Sanogo est rattrapé par la justice malienne qui ouvre le dossier des bérets rouges assassinés et l'arrête à son domicile. Trois années de prison plus tard, le général Sanogo est finalement jugé pour complicité d'enlèvement et d'assassinat.
Il y avait jeudi une élection présidentielle en Gambie avec une procédure de vote unique et pour le moins originale. Reportage de Guillaume Thibault.
Pas de bulletin de vote en Gambie. Les électeurs vont utiliser des billes. Le système est ancien. Trois bidons, aux couleurs des trois candidats, équipés d'un tube dans lequel l'électeur introduit sa bille, sont utilisés. À l'intérieur, une sonnette de vélo émet un « quand la bille tombe ». Pour Alumo Marnjai, le président de la commission électorale indépendante, cette méthode est efficace.
Notre système est le meilleur du monde. Il est libre, juste et transparent. Personne ne peut truquer les élections. Et c'est aux partis politiques qui sont légitimes de se plaindre, pas aux gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe ici.
Un système qui ne coûte pas cher, qui permet aussi à tous ceux qui ne savent pas lire de participer au scrutin. Cette année, pour améliorer la transparence, le décompte des voix sera aussi réalisé dans les 1400 bureaux de vote. Alassane Sanyang en dirigeant à Bundung.
Avant, nous comptions au ministère, mais cette année, ce sera sur place. Juste après les élections, nous allons tous faire le décompte sur place. Donc, tout le monde pourra voir les résultats.
Notamment les membres de l'opposition qui souhaitent avoir un représentant dans chaque bureau. Ils ne pourront pas venir en vélo. Avec le système de billes, les bicyclettes sont interdites à moins de 500 mètres des lieux de vote.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Une semaine d'actualité suite avec quelques messages avant de continuer notre voyage dans une actualité sombre. Bonjour par exemple à Ngui Sali qui travaille au ministère de l'éducation du Sénégal à Dakar. Bonjour à Tierno, à Djibril, à Auster, au Bénin. Un salut à Harry Jonah, à Antananarive, à Madagascar, à Lassie, à Bamako, à Jean-Michel à Paris. Un salut particulier à Cabrol, à Douala, fidèle auditeur d'une semaine d'actualité et d'idées. Nous sommes contents, nous, avec l'émission de dimanche dernier, idée de l'avoir aidé pour sa thèse sur Hannah Arendt. Suite d'une semaine en Afrique en compagnie d'Isabelle de Fourny de Médecins Sans Frontières, vous avez vu ce procédé original que les Américains pourraient peut-être essayer, qui sait, leur procédure de vote. Je voudrais qu'on parle avec vous, Isabelle, maintenant de la situation en Ouganda et de l'afflux de réfugiés sud-soudanais qui commence à devenir critique.
Ah oui, depuis plusieurs semaines, sont entre 2 et 3 000 personnes qui arrivent tous les jours en Ouganda, donc c'est énorme. Alors heureusement, le gouvernement ougandais a mis en place des camps et a toujours été d'ailleurs bienveillant dans l'accueil des réfugiés, mais là encore, il continue et il facilite le travail des ONG. Ceci dit, le nombre de personnes est vraiment très très important. Là, il y a certainement 250 000 personnes qui sont arrivées. Et les témoignages, en fait, de ces personnes, ce qui nous rapporte du Soudan du Sud, est effrayant. La situation est assez horrible là, dans les zones qui fuient au Soudan.
Là, ça veut dire que là, on peut parler de guerre ethnique, non ?
Oui, ce sont des conflits ethniques. Maintenant, les dynamiques au Soudan du Sud sont complexes, quoi. Il y a, c'est, c'est, Il y a des dynamiques nationales, régionales, locales. Ce que nous expliquent les réfugiés qui arrivent, notamment de Yé, qui est une des régions équatoriales, la centrale équatoriale, c'est qu'ils ont été victimes de viols à répétition. Ils ont vu pas mal de massacres en utilisant des machettes, des personnes qui ont été recrutées de force par différents groupes. Donc on sent, on voit ce conflit qui s'étend au Soudan du Sud, qui est comme en guerre depuis 2013, mais qui s'étend et qui se propage à des régions comme l'Équatorial, je ne l'ai pas dit, mais c'est une région qui a été épargnée par les conflits, qui est plutôt pacifique, qui est plutôt avec un niveau économique relativement correct. Et là, les gens fuient en masse cette région en raison des massacres, des viols, des violences à répétition.
Alors, comment se passe l'accueil en Ouganda, qui a une tradition d'accueil?
L'accueil en Ouganda se passe pas mal. Ça fait pas beaucoup d'années qu'ils accueillent des réfugiés, notamment soudanais. Jusqu'à peu, ces réfugiés, le gouvernement leur octroyait même des terres pour qu'ils puissent cultiver, ce qui était quand même une réponse assez intelligente, finalement, à l'arrivée de ces réfugiés. Bon, aujourd'hui, je pense plus que ce soit possible, vu l'afflux, en fait. 2 à 3 000 personnes par jour, c'est quand même énorme. Donc on est dans une situation qui reste correcte, qui devient quand même un peu tendue, quoi. Le gouvernement, les agences des Nations Unies, les ONG se mobilisent, mais prendre en charge autant de personnes chaque jour, c'est quand même un sacré défi. Et raison pour laquelle on se mobilise aussi particulièrement.
Et qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que MSF, auprès de ces réfugiés?
Nous, notre plus-value en général dans ce genre de situation, c'est d'être capable d'intervenir très vite. Et ce qu'on met en place sont surtout des structures médicales, avant tout des hôpitaux, des consultations, qu'on monte assez vite pour les nouvelles personnes qui arrivent, qu'on gère pendant 1 mois, 2 mois, et puis après qu'on repasse à d'autres acteurs. Mais bon, ça, c'est notre grosse activité. Mais par exemple, on travaille aussi sur l'approvisionnement en eau potable, qui est aussi une des questions cruciales, évidemment, pour toutes ces personnes qui arrivent.
Alors, Soudan, Éthiopie, ce sont des pays où MSF intervient depuis longtemps, même en créant des polémiques. Je me souviens de l'Éthiopie au milieu des années 80, mais c'est une vieille histoire. Il y a également la Somalie, Isabelle de Fourny, et à nouveau la sécheresse chronique, au nord comme au sud, Léonard Vincent.
Ce ne sont que des chiffres, mais ils parlent de points d'eau qui disparaissent, d'agriculture devenue impossible, de bétail famélique qui meurt et pourrit dans la brousse. Avec 2 années sans pluie au Somaliland, dans le nord du pays, des villages inaccessibles aux humanitaires dans le sud, la situation en Somalie s'est considérablement aggravée depuis quelques mois. Abdulrahman Sharif est le directeur du consortium des ONG humanitaires intervenant en Somalie.
En Somalie en général, on peut parler de plus de 1 million de personnes qui sont face à une crise. 43 000 sont en situation d'urgence et 3,9 millions de personnes qui sont en situation de stress. Au niveau de sécurité alimentaire, la situation est très grave et si on ne la prend pas en considération, elle risque de s'aggraver encore plus.
Mais d'autres crises monopolisent l'attention de la communauté internationale, insiste-t-il, ce qui risque de mener au désastre.
Le problème, c'est qu'il y a d'autres priorités humanitaires dans notre contexte. N'oublions pas qu'en 2011, on a fait face à une famine. Et on a dit après la famine qu'on ne voulait pas répéter les mêmes erreurs. Quel meilleur moyen de ne pas répéter les mêmes erreurs que de répondre maintenant avant que la situation ne s'aggrave. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que si on répond maintenant, ça nous coûtera beaucoup moins cher que si l'on répond dans plusieurs mois, dès que la situation sera encore plus grave.
Et la situation alimentaire risque d'être encore plus fragilisée par le rapatriement programmé des réfugiés somaliens vivant dans le camp de Dadaab, au Kenya.
Alors je reconnais que cette édition d'une semaine d'actualité est particulièrement lourde, mais c'est ainsi, l'actualité est comme cela. Et je voulais qu'on fasse un point sur, encore une fois, sur l'action de Médecins Sans Frontières, sur les grands dossiers de MSF. La Somalie, c'est un dossier, hélas, très vieux pour vous.
Oui, la première chose, c'est qu'on n'est plus en Somalie depuis 2013. On a quitté la Somalie suite à l'enlèvement de deux de nos collègues, mais aussi à l'assassinat de deux autres. Là, c'était quelques années avant, en 2011. Mais ce qui est très compliqué en Somalie, même quand on y était présent, finalement, c'est de savoir ce qui se passe en Somalie. Les acteurs humanitaires classiques sont déployés dans des zones très, très restreintes, où on n'a pas grande idée. La majorité du pays, en fait, elle est complètement hors radar de la communauté, de ce qu'on a de la communauté internationale.
Oui, parce qu'on sait que la Somalie n'est plus un État. C'est un semblant d'État. C'est un territoire.
Et donc, il est quasiment impossible d'accéder à la majorité des zones, en fait, pour des raisons de sécurité. Et donc, du coup, que se passe-t-il aujourd'hui? Y a-t-il une sécheresse, une famine, etc.? C'est compliqué d'avoir un diagnostic précis. En 2011, la grande crise de 2011, dont on parle dans le reportage, qui avait été... où la raison était la sécheresse, la famine, finalement, nous n'avions pas exactement la même lecture. Quoi. Pour nous, c'était vraiment le conflit somalien qui débordait. Ce n'est pas une catastrophe naturelle comme ça, c'est vraiment ce conflit qui mène à des difficultés d'alimentation pour la population. Et Dadaab est un autre sujet de préoccupation, évidemment, ce grand camp de réfugiés somaliens. Il doit y avoir encore environ 400 000 personnes, qui est de fait extrêmement compliqué à gérer. C'est compliqué de gérer un camp de 400 000 personnes, mais il est question aujourd'hui de le fermer. Et c'est certain que les conditions aujourd'hui en Somalie ne sont pas du tout réunies pour que ces personnes puissent retourner chez elles. Et on voit que le Kenya, qui, comme l'Ouganda, avait aussi une très longue tradition d'accueil des réfugiés, bon, c'est en train d'être mis en cause en raison des différents attentats, notamment en 2015. Donc c'est aussi un sujet de préoccupation extrêmement important.
Et là, Isabelle, la question des réfugiés étant plus que jamais une question d'actualité. On avait cru ces dernières années que cette question des réfugiés allait diminuer d'importance, mais c'est le contraire aujourd'hui.
Ah mais tout à fait, c'est une question qui revient à l'avant de la scène. Donc on annonce les chiffres les plus importants de déplacement de population dans le monde, 50 millions de personnes. Les dernières années, finalement, MSF, on n'était plus tellement présents sur des gros déplacements de population ou des gros camps, soit parce que la question était adressée finalement par d'autres acteurs, mais alors aujourd'hui ça revient... de plein fouet et aussi sur la question des migrations vers l'Europe, hein, où bon, ce sont des flux beaucoup moins importants de population. Mais on a vu cette année que 2016 est encore une année où il y a eu le plus de décès en Méditerranée. Et ce que l'on voit, on a des bateaux en Méditerranée, et ce que l'on voit pour ces populations-là qui ont... traversée cette année, c'est qu'elle arrive encore dans des situations pires que l'année dernière. Les conditions en Libye sont terribles, quoi. Donc énormément de viols, de violences sur les personnes qu'on récupère dans le bateau, mais qui ont passé plusieurs mois en Libye.
Oui, donc toujours aussi grave.
Toujours aussi grave.
Et il faut noter aussi que vous êtes toujours à Calais, d'ailleurs, avec les réfugiés, non ?
Très peu. On continue à s'occuper de mineurs isolés. On a des petites actions pour le moment. Petites suite au démantèlement des camps, en fait.
Dites-moi, il faut garder le moral quand on est poste.
On garde le moral. Ce qui ne passe pas ici à la radio, c'est qu'en fait, toutes ces équipes qui sont mobilisées sur le terrain, que ce soit des expatriés MSF ou des personnes avec qui on travaille sur place, on arrive quand même dans pas mal de contextes à prendre en charge les personnes ensemble, avoir des résultats médicaux corrects, et ça donne quand même de l'espoir.
De l'espoir, enfin de l'espoir. Voilà. On salue les membres de Médecins Sans Frontières qui nous écoutent en ce moment même. Merci Isabelle De Fourny, directrice des opérations de Médecins Sans Frontières. Et terminons ce numéro d'une semaine d'actualité avec la disparition d'un grand sculpteur sénégalais, Ousmane Sow, figure de l'art contemporain, auteur de statues géantes, disparition à l'âge de 81 ans, Sarah Tisser.
Il avait dédié son entrée sous la coupole il y a 3 ans à toute l'Afrique. L'Académie des Beaux-Arts, ce n'est pas rien, disait Ousmane Sow. Ce colosse à la voix douce avait commencé à sculpter enfant au Sénégal sur le calcaire.
C'est comme ça que les choses sont parties, surtout avec l'instituteur qui à chaque fois prenait mes petites sculptures et les mettait au-dessus de l'armoire, et mon père qui était avare de compliments, qui montrait quand même un certain engouement.
Mais c'est dans les années 80 qu'Ousmane Sow se fait connaître avec sa première série de sculptures monumentales représentant des lutteurs Nouba. À l'époque, il a déjà 50 ans et il abandonne son cabinet de kiné en banlieue parisienne pour se consacrer à la sculpture.
C'était un saut dans l'inconnu. Bon, dès les premières expositions, j'ai vu quand même la tournure que ça prenait. Je me suis dit, ça va, il faut continuer.
Fort de ses connaissances en anatomie, Ousmane Sow enchaîne les séries de guerriers en terre. Peul, Maasai du Kenya, Zoulou, Indiens d'Amérique, figés dans le mouvement et toujours monumentaux.
Je n'aime pas trop parler et comme je voudrais que tout le monde m'entende, c'est pour ça que c'est des sculptures surdimensionnées.
Exposées en 1999 sur le Pont des Arts à Paris, ces sculptures attirent plus de 3 millions de spectateurs. Ces dernières années, Ousmane Sow s'était efforcé aussi de représenter ceux qui l'avaient aidé à se construire en tant qu'homme, de son père, Mokhtar Sow, à Nelson Mandela, en passant par Martin Luther King.
Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky, bien sûr. On se retrouve demain pour le magazine Idées. Notre invité sera l'historien, le médiéviste et spécialiste des couleurs, Michel Pastoureau. Avec lui, nous parlerons de la couleur rouge à l'occasion de la parution d'un ouvrage sur cette couleur, justement. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Vous verrez, c'est passionnant. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.